Le journal présenté par Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir à toutes et à tous. Action, réaction. Après les frappes de cette nuit menées en Syrie par les États-Unis, la France et l'Angleterre, Vladimir Poutine a convoqué le Conseil de sécurité de l'ONU. Il se tient en ce moment même. Nous serons en ligne avec notre correspondant en Russie, Claude Brouillot. Nous entendrons l'analyse d'Yves Boyer, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Et puis le florilège de réactions côté français décrypté par David Ravier. Direction Nantes, ensuite, sixième jour d'affrontement à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Les opposants ne lâchent rien et parallèlement, manifestation de soutien dans les rues. Sébastien Sabiron est dans le cortège. Et puis changement de température, mais même colère, nous partirons à Marseille. Des milliers de personnes rassemblées pour une marche. Stop à Macron, reportage d'Isabelle Dore. Mission accompli. L'expression a été employée tout à l'heure par le président américain Donald Trump sur son réseau social fétiche Twitter. Il se félicite des frappes sur la Syrie menées en coopération avec la France et le Royaume-Uni la nuit dernière. Mais pendant que la Maison-Blanche se réjouit, le Kremlin grince des dents. Vladimir Poutine condamne fermement les frappes qui ont ciblé trois sites du régime de Bachar el-Assad, son allié. Il a convoqué le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors la voie diplomatique serait-elle devenue la seule issue de la Russie, Claude Brouillot?
Ce n'est pas seulement une analyse d'experts, mais aussi et peut-être surtout un véritable repositionnement qui demandera toutefois confirmation. Quelques heures après les frappes occidentales en Syrie, Sergueï Ryabkov, qui est tout de même le second du patron de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, s'est confié sur le site du quotidien Kommersant, un média relativement neutre ici, pour préciser que la Russie, même après les bombardements américains, britanniques et français, restait toujours intéressée par une coopération avec les États-Unis sur la question syrienne. Mis en perspective avec le seul acte à cette heure du Kremlin demandant la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, cette insiste du vice-ministre russe des Affaires étrangères prend tout son sens. La Russie, une fois annoncé l'absence de victimes dans ses rangs ou le maintien intact de ses sites stratégiques en Syrie, n'a aucun autre point d'appui que la diplomatie. Les indications auxquelles il faut ajouter pour l'instant, par exemple, le maintien de la visite d'Emmanuel Macron le mois prochain à Saint-Pétersbourg, quant au projet de résolution déposé à l'ONU par la Russie pour condamner les frappes occidentales de la nuit dernière, il semble de pure forme, un peu comme si la diplomatie russe souhaitait par ce biais boucler elle-même cet épisode.
Merci Claude Brouillot. Un projet qui tient donc en 5 paragraphes, mais qui n'a peu de chances de recueillir les 9 voix nécessaires à son adoption. Et puis vient à présent forcément cette question. D'autres frappes sont-elles à prévoir? Eh bien pas pour Yves Boyer, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, car ces frappes en fait risqueraient d'embraser toute la région.
La dimension régionale, elle est évoquée par tout le monde, y compris par le chef d'état-major américain, y compris par le secrétaire à la défense américain, le général Mattis, qui l'un et l'autre font valoir qu'il faut être extrêmement prudent dans la gestion de cette affaire, parce qu'en effet, il y a potentiellement des risques d'escalade régionale, voire plus, si on y prend garde. Donc c'est une affaire extraordinairement sensible. Et on peut imaginer que il y a eu une bordée de missiles de croisière qui étaient tirés. Et je pense que vraisemblablement on va s'arrêter là, parce que aller au-delà, c'est vraiment risquer un engrenage d'escalade tout à fait préjudiciable à la paix internationale.
Peu de chance, mais ceci dit, nous l'apprenons à l'instant, Washington se dit prêt à dégainer à nouveau en cas de nouvelle attaque chimique. C'est Nikki Haley qui l'affirme, elle est ambassadrice américaine auprès des Nations Unies. L'escalade de la violence, c'est ce que craignent depuis ce matin des personnalités politiques françaises, tandis que d'autres saluent ces frappes. David Ravier, bonsoir.
Bonsoir Louis-Valentin.
L'intervention de la France divise donc la classe politique, c'est le moins qu'on puisse dire.
En effet, le nouveau patron du PS, Olivier Faure, soutient les frappes de cette nuit qui, selon lui, sont un bon moyen de montrer au monde qu'il y a des limites à ne pas franchir. Même son de cloche pour le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui parle du rôle singulier et historique de la France à exercer les frappes aériennes ciblées sur l'arsenal chimique syrien. À droite, en revanche, les réactions sont plus contrastées. Sur son blog, Alain Juppé affirme que ne rien faire en Syrie, c'était signer l'arrêt de notre impuissance et de notre indignité face aux agissements monstrueux du régime criminel. Tandis que le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, estime que cette intervention dessert la diplomatie française et que le pays n'est utile que s'il privilégie le dialogue.
Et ce que reprochent certaines personnalités aussi, David, c'est ce qu'ils estiment être une sorte de complicité en fait entre Emmanuel Macron et Donald Trump.
Oui, c'est notamment notamment le cas de Marine Le Pen, pour qui la France perd de nouveau une occasion d'apparaître sur la scène internationale comme une puissance indépendante. De son côté, le chef de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, va plus loin. Il estime que la France a perdu tout rôle possible dans ce conflit, si ce n'est celui d'accompagnateur des États-Unis. Le député des Bouches-du-Rhône craint que ces frappes ne soient que le début d'une escalade et appelle donc à un rétropédalage de la part du chef de l'État.
Merci beaucoup David Ravier pour toutes ces précisions. À ajouter aussi cette déclaration de Florence Parly, la ministre française des Armées. Elle a déclaré cet après-midi que cette opération avait été un succès et que les missiles français tirés avaient tous atteint leurs objectifs. Une ancienne DRH du groupe Lafarge, mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui, elle échappe à des poursuites pour financement du terrorisme dans l'enquête sur les activités du cimentier en Syrie. Sonia Artignan, la DRH du groupe de 2013 à 2015, avait été convoquée en mars par les juges d'instruction. Le groupe français Lafarge est mis en cause pour avoir financé des factions armées en Syrie, dont le groupe État islamique, pour continuer de faire tourner sa cimenterie. Dans le reste de l'actualité internationale, 4 activistes du djihad islamique décédés aujourd'hui dans la bande de Gaza. Ils seraient morts à la suite d'une explosion accidentelle lors de préparatifs, c'est l'organisation radicale qui l'affirme dans un communiqué. Il circulait à bord d'un tricycle motorisé à quelques centaines de mètres seulement de la frontière avec Israël. Au Nigeria, une marche aujourd'hui, une marche pour réclamer la libération des lycéennes enlevées par Boko Haram à Chibok dans le nord-est du pays. C'est le 4e triste anniversaire de cet événement. 57 lycéennes se sont échappées, 112 sont toujours détenues. Et puis la foule, la ferveur et surtout le recueillement dans le township sud-africain de Soweto. Dernier hommage à Winnie Madikizela Mandela, figure de la lutte contre l'apartheid. Des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui l'ont acclamé lors d'obsèques nationales. À Nantes, les pavés des rues mis à rude épreuve cet après-midi. Deux manifestations, coup sur coup. La première est partie à 14h30 contre les ordonnances Macron. La deuxième à 16h30, une manifestation de soutien à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Sébastien Sabiron, vous êtes au cœur des manifestants.
Les cheminots en tête de cortège, les étudiants au milieu et dans les rangs de la manif, quelques soutiens aux zadistes.
Salutations à vous, habitants de la ZAD, de Notre-Dame, des Landes.
Camille est venue du sud pour soutenir les occupants de la ZAD, 5 jours d'affrontement dans le bocage nantais.
Nous on y était et j'aimerais dire qu'ils envoyaient des grenades fumigènes, il n'y avait aucune visibilité. On se prenait des grenades assourdissantes, des grenades de désencerclement juste derrière. Et vraiment, on a un Premier ministre qui dit que s'il n'y a pas eu de blessés, c'est grâce au professionnalisme des forces de l'ordre. Je veux dire quand même que s'il n'y a pas eu de morts, c'est vraiment beaucoup de chance aussi. Quoi.
Jean-Sébastien, lui, a de nombreux amis dans la ZAD, choqué par les images des expulsions qu'il a vues cette semaine.
Ces personnes-là, c'est vraiment des projets et vraiment des individualités. Quoi. Et c'est marrant comment le gouvernement il amorce les détonateurs, parce que c'était une action politique qui s'est passée là-bas, et nous, voilà, vent contraire, et ça va leur revenir dans la figure. C'est eux qui choisissent aussi. Hein.
Evelyne est au chômage, proche de la retraite, elle vit près de Notre-Dame-des-Landes. Macron met le feu partout, dit-elle.
Demain, on va à la ZAD, là-bas, on va les défendre. Ils n'auraient pas dû y toucher, qu'ils laissent faire. Ils n'ont même pas fini leur projet. Et on les casse. Ça va pas.
Une première manif sans incident, hormis quelques grenades assourdissantes lancées par les CRS présents en nombre. Et en attendant la convergence des luttes, le cortège syndicaliste et le deuxième, celui des zadistes, ont convergé tout à l'heure dans le centre-ville de Nantes.
Et merci beaucoup Sébastien Sabiron. Et parallèlement à Marseille, eh bien on crie aussi, mais on crie stop à Macron. C'est le nom d'une manifestation organisée aujourd'hui à l'appel d'une quinzaine de syndicats. Colère palpable contre la politique du président. Isabelle Dore était dans le cortège.
Voilà longtemps que l'on n'avait pas vu autant de drapeaux flottant au-dessus des manifestants. CGT, PC, Sud, Insoumis, FSU et bien d'autres. Des milliers de drapeaux et des pancartes. Macron dégage, pas touche à nos acquis, sortons du capitalisme, sauvons le service public. Le service public qui était au cœur des revendications. Philippe Lager de la CGT Finances Publiques.
Le service public, c'est la richesse des pauvres. Ceux qui n'ont rien, ils ont au moins un service public. Si le gouvernement ne veut pas négocier après les mobilisations qu'il va y avoir aujourd'hui comme le 19, si le gouvernement ne veut pas nous entendre, je pense qu'il faudra un blocage économique du pays. En tout cas, nous, au niveau des finances publiques, on y est prêt.
Vous, monsieur, vous portez un bonnet phrygien rouge avec une cocarde, comme au temps de la Révolution.
Parce que j'ai l'impression d'être retourné 200 ans en arrière, en temps de 1789. Il y a un pouvoir qui n'écoute pas, qui a tous les pouvoirs. On n'est plus en démocratie, il n'y a plus d'opposition. Les richesses ne sont pas distribuées.
Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance ! Résistance face à la politique actuelle de Macron qui est juste là pour faire plaisir aux 10% les plus riches. Donc résistance, tous les jours.
Et signalons que Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, était en tête du cortège. Allez, regardons maintenant rapidement les prévisions de Météo France pour demain. Une bonne nouvelle, le soleil s'invitera sur une grande partie de la France, de l'est au sud-ouest. Une mauvaise nouvelle aussi, le ciel ailleurs sera mitigé. Cette édition a été préparée avec l'aide de Caroline Bonneton. À la technique, c'était Audrey Galil.